Delphine Nelet, Alexis Aurélou, bonjour. Très heureux de vous rencontrer à la Foire du Livre dans le cadre de votre nouvelle bande dessinée dans la collection Lucien et les mystérieux phénomènes. C'est le tome 4, Le Colosse de Maria Lorenz. Ce quatrième tome aborde le thème du journalisme avec certaines questions corollaires, l'éthique, l'information, la vérification des sources, les fake news. Pourquoi finalement vous avez choisi le support papier qui finalement est en voie de disparition plutôt que l'Internet, les réseaux ou les chaînes d'infos?
Je crois que c'est parce qu'on est encore très attaché au papier et qu'on est très peu on est un peu sur les réseaux et tout ça pour
c'est propre à Niafle, ça, fait. Non.
Alors certes, quand on est arrivé dans ce coin-là, il y avait pas de connexion, donc c'était compliqué. Ouais. Maintenant, on a la fibre et tout va bien. Mais malgré tout, on n'est pas très très technologie et tout ça, donc voilà, on est encore attaché aux vieilles choses.
Et après, il y avait vraiment le côté aussi un peu à l'ancienne, club journal.
De collège.
De collège, le fait de... Enfin, nous, avant de faire de la bande dessinée, on a fait du fanzine, et donc vraiment la création de son petit journal, et de le produire, de le distribuer dans l'établissement.
Et on fait encore des interventions autour de ça et autour justement de la liberté d'expression, effectivement, oui. Ce côté fanzinable, autoproduction, on y tient aussi. Ouais. Mmh.
Quel a été le point de départ de votre réflexion pour ce quatrième tome?
C'est un peu compliqué parce que, en fait, on a tendance à réfléchir à Lucien. En fait, il y a une thématique par Lucien. Et donc, au moment d'en attaquer un autre, en fait, après on a plusieurs thématiques en tête. Et on a eu la politique, le journalisme, on a les stéréotypes,
la planète.
En fait, c'est un peu par rapport à ce qui nous tente sur le moment ou l'idée d'histoire qui nous vient.
Et puis par rapport aux réflexions peut-être de nos enfants parfois parce qu'on a des enfants qui ont à peu près l'âge de Lucien et Violette, donc parfois ça nous fait réfléchir aussi, on se dit tiens, peut-être que ça serait intéressant de parler de ça.
Après effectivement, même si pour le coup par exemple la façon de montrer par exemple les fake news et tout qui est fort montré par le téléphone aujourd'hui, le fait de voir ça à l'école, de voir nos enfants évoluer avec des copains qui ont des téléphones, tout ce côté-là, en fait, nous est venue l'idée de faire un travail sur le journalisme parce qu'on trouvait ça important qu'ils aient aussi une notion de regarder différentes sources, en fait, rien que ça, en fait, et de pas avoir une source et de s'attacher à ça que sur cette vérité là en fait, quoi. Enfin,
Et ça, c'est compliqué. Je me souviens avoir eu une discussion longue avec notre fils, justement, qui faisait un projet journal à l'école et comprenait pas bien pourquoi... on était sur la notion de confiance, justement, sur laquelle est revenu Laurent Cordonnier dans la préface, là, et qui est hyper importante, en fait. Et il comprenait pas en quoi on pouvait pas avoir confiance à partir du moment où c'était écrit noir sur blanc. Etc., que c'était dit publiquement. Donc, je lui disais, non, faut toujours vérifier, faut croiser les infos. En plus, il y a des propos qui sont partisans, donc qui sont peut-être pas ton opinion à toi. Mais oui, mais comment faire pour avoir quelque chose qui est de mon opinion? C'est à toi de te la créer, ton opinion. Et en fait, c'est finalement beaucoup de questionnements à cet âge-là qui sont intéressantes.
Conserver son humanité est un de vos principes de vie. L'Internet, ça déshumanise, selon vous?
Il y a un côté un peu dangereux, en fait. Il y a un côté chouette dans la découverte et le partage de culture, par exemple, de musique, d'œuvres artistiques, tout ça. Il y a moyen de découvrir plein de choses. Après, il y a aussi moyen de faire le mal absolu par les fake news, par le harcèlement, enfin toutes des choses que les jeunes sont confrontés à l'école très jeunes aujourd'hui, par le fait qu'ils aient des téléphones portables en sixième, par exemple, avec le partage de photos, de tout ça, en fait, c'est très compliqué. Donc, je pense qu'il y a vraiment un apprentissage aussi à savoir se servir d'un outil, en fait, quoi.
En tant que parent et en même temps en tant qu'auteur, est-ce que vous estimez que la jeunesse actuelle est plus malléable ou au contraire elle a quand même parfois ce recul plus développé qu'il y a quelques années?
Je suis pas sûre ça revient à ce que je voulais dire sur la question précédente. Je pense que le problème de l'internet, c'est la rapidité en fait de circulation des informations aussi. On prend pas le temps on poste et on absorbe des trucs, on absorbe de l'image aussi beaucoup et on sait pas la lire forcément non plus l'image où elle peut être sans même parler d'être trafiquée, mais une photo prise dans un contexte ou dans un autre ou sortie de son contexte va vouloir dire autre chose que donc en fait et on a pas le temps de... Alors je pense que quand on produit quelque chose sur Internet, nous-mêmes, sur les réseaux, on prend pas forcément le temps nécessaire pour de se poser toutes les questions sur ce qu'on publie. Et quand on reçoit de l'information par Internet, on prend pas forcément le temps non plus. Il y a un fil tellement continu en permanence. On prend pas forcément le temps d'analyser vraiment ce qu'on voit. Et je pense que c'est le danger d'Internet, quoi, pour le coup. Et sur la question des enfants aujourd'hui, effectivement, comme disait Alexis à l'instant, je pense que il y a une éducation nécessaire à faire à cet objet-là et à cet outil-là, en fait, qui peut être vraiment intéressant. Et bon, ça se fait, en tout cas, ils ont quand même des interventions et un peu de contenu quand même à l'école face à ça. Mais si on met cet apprentissage et cette éducation en lien avec justement l'accès continu, permanent, hyper speed de toutes les infos qu'ils reçoivent, je suis pas sûr qu'ils aient eu le temps d'avoir l'apprentissage nécessaire pour
faire le tri. Dans votre BD, on définit pas bien l'époque dans laquelle on se situe, et on a l'impression que le temps s'est arrêté. Vous vivez, comme on vient de dire, à Niafle, donc dans la Mayenne, une commune de 350 habitants. Est-ce que chez vous aussi le temps s'est arrêté?
À Niafle, je sais pas, parce que non, je pense pas, mais chez nous, dans notre maison, un peu.
C'est vrai qu'on n'est pas à fond sur tout ce qui est technologique et au contraire on essaie de réutiliser des outils où on prend le temps, quoi. Ce qui fait qu'en fait par exemple des téléphones portables, ça fait pas longtemps qu'on a des téléphones portables, des smartphones, tout ça. En fait, ce qui fait qu'on n'en mettait jamais dans nos albums. Et donc, c'est vrai que quand on faisait des rencontres scolaires, les enfants nous demandaient aussi, ça se passe à quelle époque? Et nous, on disait, mais c'est à l'époque contemporaine. On n'a pas de télé. Il y a plein d'outils comme ça, ou de choses qu'on n'utilise pas et donc on les met pas, quoi. Mais on met encore des lecteurs CD, quoi.
Des disques, des vinyles, et des livres papier.
Alors, 350 habitants, j'ai vu que c'était les statistiques de 2021. Est-ce que depuis vos publications, il y a eu un afflux de nouveaux habitants? Et est-ce que les gens viennent parce qu'il fait tellement bon vivre chez vous, semble-t-il?
Ça, je sais pas.
Après la Mayenne, les gens viennent parce que c'est quand même un département assez accessible et assez inconnu aussi.
Et puis c'est beau, c'est paisible. On vient chercher la tranquillité.
Accessibilité chouette, parce que par exemple c'est que nous on est pas loin de tout, en fait. Il y a Rennes pas loin, Angers pas loin, Laval, Paris c'est pas si loin, Bruxelles c'est pas si loin, en fait. On met 3 heures pour arriver.
Vous n'êtes pas des irréductibles gaulois?
Non. Peut-être plus toi. De Douarnenez, fin fond de la Bretagne.
Selon vous, le public de Lucien, il se situe où, quelle tranche, et comment vous êtes parvenu à le sensibiliser et à le fidéliser, puisqu'on est au tome 4 quand même?
Le public, nous on estime que c'est entre 8 et 12 ans, quoi, à peu près, 8-12. quand on fait des rencontres scolaires, en tout cas, c'est beaucoup cette tranche d'âge-là. Après, je sais pas.
Après,
comment...
sur le fait de, ça se fait beaucoup par la médiation, en fait, autour des Luciens, parce qu'on justement fait énormément de rencontres. On a une grosse expo qui tourne aussi, et donc on parle beaucoup avec autour des sujets, en fait. Et je pense que la sensibilisation de l'album aux enfants se fait vraiment par ça, en leur expliquant ce côté aventure et après pourquoi on y inclut des thèmes de société. Parce que après nos premiers albums étaient pour adultes, de la BD du réel, un peu documentaire, tout ça. Et en fait, à ce moment-là, on s'était dit, on touche que des gens qui sont très convaincus de tout ce dont on parle, quoi. Et en fait, c'est à ce moment-là, on s'est dit, mais si on veut toucher des personnes nouvelles, en fait, faut parler aux enfants, comme ça, ils ont pas déjà d'idées formatées. Et c'est comme ça que Lucien s'est créé, quoi. Et ce qui fait que ça marche beaucoup dans le fait de faire des rencontres, quoi. Enfin, à l'école, là, on va en faire une aussi. Enfin,
Parlant des thèmes, est-ce qu'il y a des thèmes peut-être plus délicats que vous auriez aimé aborder et que, bon, compte tenu encore une fois votre public ou de l'éditeur, il y a une autocensure ou une censure, étant donné qu'on vit quand même dans une époque de wokisme et parfois il y a certaines choses, entre guillemets, à ne pas dire ou à ne pas montrer.
C'est pas fixé, ça.
Non, j'ai pas l'impression qu'on... Alors, non, j'ai l'impression qu'on pourrait oser parler d'un peu tout.
D'un peu tout, oui. Après, il y a la façon de le montrer.
Voilà,
en fait.
Sur la façon de le dire, mais il y a déjà des sujets un peu secondaires. Je pense au personnage de Paul, là, dans le deuxième, Lucien, pour le coup. Il y a une situation familiale compliquée. Et je sais que ça a été abordé dans des rencontres scolaires où je sentais que des enfants étaient, se sentaient proches de ce personnage-là. Donc, là, ça fait. Là, peut-être plus difficile d'aborder le sujet comme ça, en face à face, en rencontre scolaire, dans une classe, en plus, des enfants qui se livrent un peu sur un contexte compliqué devant tout le groupe. Et puis, moi, je suis pas spécialiste de la question non plus. Mais donc, je pense que c'est plus facile d'aborder un peu des sujets délicats en BD parce qu'on va avoir notre façon de le faire avec notre sensibilité, sans prétendre être spécialiste de la question non plus. Donc, c'est juste. Effleuré, quoi. Après, y répondre en face à face, c'est encore une autre paire de manches, quand même.
En parlant de censure et de ce qui est autorisé, j'ai été voir votre profil Instagram et là, j'ai vu de superbes aquarelles. J'ai eu l'impression que une fois que Lucien est couché vers 20h, vous descendez dans votre cabinet et là vous vous éclatez des aquarelles un peu plus adultes. Est-ce que c'est le côté Dr Jekyll, Mr Hyde?
Ah, c'est assez rigolo parce que je pourrais diviser ça un peu de cette façon-là, en fait, où il y a un côté dans mon boulot graphique que je divise vraiment en deux, avec le côté vraiment un peu aventure, jeunesse, un peu des souvenirs de l'enfance aussi, de tout ça. Et après, en fait, le côté plus sombre, de choses aussi qui m'attirent beaucoup, enfin l'univers du polar, l'érotisme, tout ça, enfin, et le côté graphique après qui rentre en jeu aussi, et le fait d'essayer des choses très différentes. Donc voilà, enfin, c'est, mais j'ai presque besoin des deux, en fait, pour avoir une forme de stabilité.
C'est vrai que vous faites des expos avec vos aquarelles aussi.
Ouais, je fais pas mal de peintures à l'huile aussi, donc c'est vraiment des formats très différents. Et même après, avec Delphine, on bosse sur pas mal de choses différentes, que ça soit en volume, qui sont pas forcément, ça s'arrête pas forcément à l'image, en fait, quoi. C'est
outre l'histoire, il y a un dossier didactique ici, je trouve, est magnifique. complet, précis. Et je trouve qu'à la limite, on devrait le donner à tous les étudiants en journalisme, parce que il est tellement vraiment bien documenté. C'est facile de constituer un tel dossier. Je crois que au fil de vos tomes, vous essayez de développer davantage cette partie-là de votre ouvrage.
C'est pas si facile parce que, comme je disais tout à l'heure, on n'est pas spécialiste non plus de toutes les questions qu'on aborde. Donc mais en même temps, c'est une façon de transmettre ce qu'on a appris nous-mêmes en faisant le livre, quoi. Et après, c'est souvent moi qui m'occupe de cette partie-là et je me documente à fond. Hein. C'est des choses qui existent dans des. Mais bon, c'est une compilation.
Ah ouais, mais bien faite là. Non, quand même, c'est impressionnant. Ouais.
Voilà, en termes d'éducation aux médias et tout ça, mais voilà.
Et après, tu tries même par rapport à l'accessibilité aux enfants. Essayer de voir.
C'est de rentrer dans la tranche d'âge concernée. Quoi.
Ouais. Dans votre dossier, vous expliquez qu'on choisit son titre après avoir écrit. C'est aussi le cas de vos BD, parce que c'est vrai que vous avez toujours des titres un petit peu fous.
Mais souvent, on choisit le titre après avoir réfléchi à l'histoire. Quoi. Et c'est marrant parce que je le dis, je fais des ateliers il n'y a pas longtemps, là, et je le disais aux enfants que j'avais en atelier, qui commençaient par poser un titre, bam, et puis après, essayer de trouver une histoire. Je me dis, souvent, c'est quand même plus simple de trouver un titre après avoir fait l'histoire, parce que l'histoire, tu ne sais pas vraiment où elle va, donc fais l'histoire, et après, le titre, c'est vraiment ce qui va synthétiser le truc.
C'est vrai qu'au moment où on a l'histoire, c'est vraiment la recherche des termes.
Voilà.
On regarde les synonymes.
Dictionnaire des synonymes.
Alors on en discute un moment, on fait « Ah, ça sonne bien » et tout. Enfin, où on sent vraiment le titre qui a du peps, quoi.
Qui accroche. Ouais. Qui accroche. Et donc, je suppose que quand on a l'ordre oublié de Sainte-Barbe, il y a déjà tout qui est déjà prêt, qui est sous presse, quasi. C'est le cinquième, on peut le dire. Ouais.
Et ben, il va sortir. Il faut le finir dans 2 mois là, donc c'est bientôt fini.
Il y a intérêt. Vous parliez de votre collaboration. Est-ce qu'il y a un modus operandi entre vous?
C'est assez variable en fonction des projets, mais habituellement on travaille quand même l'histoire ensemble, on en discute à l'oral, quoi. On fait une espèce de trame autour de laquelle après moi j'écris une suite dialoguée. Et ensuite, Alexis propose un découpage de l'histoire.
Après, c'est un peu le bazar, hein, la façon dont on travaille. Enfin, au début, on a une forme de construction et de séquençage, quoi. Enfin, et après, en fait, pendant le moment où on réalise l'album, on revient sans arrêt, on rajoute, on reséquence, parce que aussi au moment de le faire, il y a vraiment ce côté rustine à coller. Recoller des éléments par-dessus pour re-rythmer et tout, ressentir vraiment. Moi, j'aime bien cette façon de fonctionner. Après, le fait de retravailler, il n'y a pas le scénar qui est fini et après on dessine, mais il y a une réflexion constante et même de pouvoir retoucher les personnages pendant l'album.
Ça représente en fait combien de temps la conception d'un album, enfin je veux dire une fois que l'idée a jailli?
Après ça dépend de la complexité de l'album, mais le 4 qui a été particulièrement complexe parce qu'il y a beaucoup de personnages et tout, et il a mis presque 2 ans à sortir.
En général, en moyenne, pour nous, on dit qu'on met 1 an et demi à peu près à faire un album, quoi. D'une centaine de pages, quoi.
Ouais. Envahissant. Hein. Un grand merci en tout cas, donc Delphine Alexis. On rappelle Le Colosse de Maria Lorenz, le tome 4 de la collection Lucien et les mystérieux phénomènes, sorti aux éditions Casterman. Merci à vous.
Merci.